La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
On est toujours lundi 27 mai, c'est la midinale, vous êtes sur Radio Piquet et c'est la partie s'informer autrement. Thomas va nous faire un voyage dans le temps.
Ouais, c'est ça. En fait, récemment, j'étais au cinéma et puis j'ai vu un film en fait, qui parlait encore de voyage dans le temps pour contrer les effets qu'avait pu produire un méchant. Donc, voilà, ouais. Et en fait, en sortant de la salle, je me suis dit, mais c'est hallucinant le nombre de films en fait, qu'il y a autour de ça. Et je trouve aussi hallucinant parce que c'est quand même un genre de film qui est assez... dangereux du point de vue scénaristique à mettre en place, parce qu'en fait ça laisse place à quand même pas mal d'incohérences finalement, la possibilité pas mal d'incohérences qu'on peut vite retrouver. Et du coup moi j'ai surfé sur les internets là pour voir un petit peu ce qu'il en était, et en fait il y a trois théories dans le cinéma sur lesquelles peuvent s'appuyer des films, trois théories principales pour faire des films de science-fiction ou des comédies même, parce qu'il y a des comédies autour de justement cette question de voyage dans le temps. Donc il y a, la première, c'est la chronologie dynamique, qui dit que pour chaque changement ou altération dans les événements passés, ben, du coup ça aura un impact définitif sur notre présent, ce qui paraît être normal. Donc ça offre plusieurs fantasmes, comme celle d'éliminer justement une menace en amont, ou dans des comédies, d'accéder à la réussite sentimentale, quoi. Je veux dire, on le voit un peu dans le film Un jour sans fin, je sais pas si vous connaissez, avec Bill Murray.
Si, c'est trop bien.
Et bah, voilà, Bill Murray revit la même journée tout le temps, le jour de la marmotte. Ouais, je sais pas si ça te dit quelque chose.
Bonjour les marmottes, ouais. Ça caille ici. Non, j'arrête.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, génial, du coup, il revit la même journée en continu. Et en fait, il se trouve qu'il a une collègue qui est Andy McDowell. Et en fait, bah, petit à petit, il commence à la découvrir en fait, au fur et à mesure qu'il repasse cette même journée. Et il commence vraiment à en tomber amoureux. Et en fait, au début, il va se prendre des vents, il va mal s'y prendre. Et petit à petit, en fait, il y arrive. Alors, ça pose quand même quelques questions éthiques, hein, mais bon.
Voilà. Quand même. Quand même.
Voilà. Parce qu'en plus, ouais, bon, je ne vais pas spoiler non plus, donc je m'arrête là. Mais voilà, bon, ça, par contre, ça peut poser justement des paradoxes assez dangereux aussi, le fait de pouvoir faire des changements, parce que si je tue quelqu'un, finalement, il y a des répercussions, ce qu'on appelle effet papillon, qui vont se répercuter, et en fait, il y a plein de choses aussi bénéfiques qui auront été faites par cette personne-là dans son parcours de temps, qui auront été effacées. Donc, en fait, quand on va revenir après dans le présent, finalement, on va retrouver un présent qui sera totalement modifié parce que tous ces petits effets-là n'auront pas eu ces répercussions. Voilà. Et il y a aussi un autre paradoxe qui est dangereux, c'est le paradoxe du grand-père. Imaginons que je voyage dans le temps. Je tue mon grand-père avant qu'il ait rencontré ma grand-mère.
Marty McFly.
Mais, oui, mais c'est pas possible, du coup. Enfin, il y a un paradoxe qui fait que c'est pas possible parce que, du coup, je ne peux pas être en vie, je peux pas être né, et pourtant, je n'ai pas pu, du coup, faire ce voyage dans le temps. Voilà. Donc c'est la petite incohérence de ce principe de chronologie dynamique. Ensuite, on a une chronologie qui s'appelle la chronologie fixe. C'est-à-dire que peu importe tes actes, le futur ne peut pas être changé. C'est-à-dire que si tu voyages dans le temps et les actions que tu vas faire en voyageant dans le temps, c'est pas grave, c'est que c'était déjà inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que si je voyage dans le temps et que je tue quelqu'un, bah c'était ça l'histoire. Et donc, du coup, en fait, c'était déjà prévu. Le film, je spoil, attention, L'Armée des Douze Singes, bah, c'est le cas. C'est qu'en fait, il y a tout un truc de voyage dans le temps. Et pour contrer justement une espèce de menace qui propage un virus à l'échelle planétaire. Et en fait, à la fin, on se rend compte que bah, c'était prévu et que du coup, tous ces voyages dans le temps faisaient qu'on devait arriver à cette étape-là.
Je peux juste dire, on connaît bien L'Armée des Douze Singes. À la base, c'est repris d'un film absolument fabuleux de Chris Marker qui s'appelle La Jetée.
Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un remake de Terry Gilliam, après L'Armée des Douze Singes. Donc en fait, même je recommande de regarder
les deux.
Mais du coup, c'est quand même ce principe-là aussi, ça laisse quand même à plus de pessimisme en fait, dans l'histoire des films de science-fiction. Parce qu'en fait, tu te rends compte que peu importe les actions, tu ne pourras pas changer ce qui doit arriver. Et c'est assez flippant aussi. Donc, t'auras beau te démener, donc, autant rien faire, je sais pas. Ensuite, il y a la troisième et dernière théorie, c'est la chronologie multiple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu voyages dans le temps, tu vas créer une brèche et du coup une scission sur le point d'arrivée. Si tu voyages dans le passé, je retourne en 1958, mais à partir de 1958, il y aura deux embranchements linéaires de temps qui vont être créés. Donc là, en fait, là c'est ce qu'on appelle des multivers. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs futurs. Voilà. Donc du coup, ça fait aussi qu'il y a plusieurs versions de toi qui sont créées, plusieurs versions en fait, de la planète, de l'univers. Et là, c'est le bordel total. Parce que là, tu peux faire tout ce que tu veux dans une timeline, ça n'aura pas de répercussions dans une autre timeline, enfin, timeline ligne de temps, quoi, du coup. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà. Donc voilà, après c'est vrai que si du coup tu voyages et qu'après tac, tu peux avoir des embranchements qui ont encore plusieurs embranchements, enfin je vous laisse, il y a notamment des séries télé comme Rick et Morty qui trippent bien là-dessus, et du coup en fait ils se rendent compte qu'il y a plusieurs versions d'eux-mêmes qui vont s'entretuer, et du coup enfin il y a des épisodes qui sont, ça, c'est une série qui est pas mal portée sur l'humour et la science-fiction, mais il y a quand même des fois des trucs sur lesquels tu te marres, mais tu te dis mais en fait c'est un peu chaud quand même ce qui se passe, c'est que quand tu te retrouves faire... en face d'une version de toi-même, c'est quand même assez, assez chaud, quoi, tu vois. Enfin, voilà, je sais que c'est... la série m'avait beaucoup fait rire, mais à un moment, ça pose quand même pas mal de questions.
Moi, j'adore cette série, ouais. et elle est vraiment... elle pose des questions philosophiques vraiment fortes, et il y a des moments où c'est troublant, en fait, ouais. Parce que tu t'identifies au personnage, en plus, de l'enfant, quoi, qui suit son grand-père, qui fait que des conneries, et il lui arrive des trucs, mais c'est horrible, quoi, c'est vraiment, enfin je trouve qu'elle est vraiment à la fois drôle et profonde, quoi. Mmh.
Et pareil, si tu tombes sur d'autres versions de toi-même, là, tu peux te poser la question, laquelle est vraiment, est-ce qu'il y en a une qui est plus légitime que d'autres à exister dans ce même univers, enfin c'est des questions compliquées, enfin est-ce qu'il y en a vraiment un qui est l'original et d'autres des copies ou pas, enfin voilà, donc par contre, après, du coup, j'ai été un peu plus loin. Bon, là, ça va être un peu plus technique. Hein. J'espère que vous étiez déjà bien accrochés. Là, c'était un échauffement. Je me suis renseigné, du coup, sur les voyages dans le temps, mais vraiment les vraies théories scientifiques, on va dire. Hein. Et donc, en fait, ça a commencé avec... En 1905, avec Albert Einstein, qui avait du coup commencé à regarder un petit peu toutes les possibilités de voir le temps se délater. Et donc, du coup, en fait, en définitive, du coup, produire des effets d'un voyage temporel et des paradoxes que ça pouvait engendrer. Donc, il y avait le paradoxe des jumeaux. Donc là, c'est en 1911 que ça a été imaginé. C'est Einstein qui imaginait que deux frères jumeaux soient nés sur Terre, dont l'un voyagerait dans l'espace quasiment à la vitesse de la lumière, tandis que l'autre resterait sur Terre. Alors, selon sa théorie de la dilatation du temps, l'individu envoyé dans l'espace rentrerait sur Terre plus jeune que son jumeau, car la durée du voyage serait moins importante pour lui que pour son frère terrien. En fait, le fait de voyager, l'action, le mouvement, ça, du coup, fait que le voyage, en fait, en termes de temps, est moins long que quand toi, tu restes sur Terre. Et en fait, ils ont fait cette expérimentation avec des horloges dans un avion, enfin, dans deux avions. Il y en a un qui partait, donc les deux horloges étaient réglées à la même, voilà, temps zéro, tac, départ en même temps. Un avion partait dans le sens orbite de la Terre et l'autre dans le sens inverse. Quand ils sont revenus à point, tac, et ben en fait, ils ont vu qu'il y avait un léger décalage sur les deux horloges.
Ok, j'ai mal à la tête.
Ouais, je sais. Et donc du coup, comme quoi, en fait, vraiment, voilà, il y a un truc de dilatation temporelle. Après, je vais en parler un peu plus loin, parce qu'en fait, c'est notre représentation aussi du temps. Donc après, il y a le paradoxe du grand-père dont j'ai déjà parlé. Ça, c'était René Bergerel qui avait imaginé ça. Après, alors voilà, là, c'est là qu'il faut s'accrocher. C'est la représentation de l'espace et du temps. Le temps est une mesure du changement qui prend place dans ce que nous appelons l'espace. La série de changements qui constituent nos vies se passe dans le temps et dans l'espace. On est d'accord ? Mm-hmm. Voilà. Alors, le mot espace-temps est une fusion des deux concepts. Du coup, le concept de l'espace et le concept du temps. Le concept de l'espace, on arrive à le repérer avec les trois dimensions, hauteur, largeur, profondeur. Et là, pour celle du temps, c'est un petit peu plus compliqué. On a tendance à voir ça comme étant juste une ligne, en fait. Voilà, ça se déroule, ça se déroule. En fait, non, parce que comme elle se déroule, justement, dans ce truc d'espace, à trois dimensions, cette représentation du temps, et sachant que l'espace est un temps continuellement infini en expansion, c'est pareil pour le temps. du coup, le temps est en dilatation, et en fait, on a tendance à se représenter le temps en 2D, je vais dire, alors que finalement, il faudrait peut-être se le représenter autrement. Mais là, c'est hyper difficile, en fait, pour nos esprits à faire. Bon, après, rapidement, en fait, il y avait aussi les théories de passage et de trous de verre. En fait, c'est des tunnels qui seraient créés d'un bout à l'autre de l'univers à partir des trous noirs, des trous de verre, en fait, et on pourrait voyager à travers ces tunnels, du coup, pour passer d'un bout à l'autre, en fait, en l'espace d'un claquement de doigts, en fait, quoi. Mais là, c'était vraiment des compressions. Là, c'est vraiment très technique et j'ai pas compris non plus. Je pense que ce serait difficilement possible, en fait, que nos corps prendraient un sacré coup. Voilà. J'ai pas de conclusion. Voilà, je voulais juste essaimer les graines de fantaisie et puis de voir un peu comment le cinéma s'emparait de ces questions-là. Enfin, les œuvres culturelles de fiction, parce qu'il y a quand même pas mal de romans aussi autour de ces questions. Mais je trouve que c'est quand même, ça peut vite créer le bordel, parce qu'en fait, déjà, entre ce que le cinéma va pouvoir fantasmer et entre les vraies théories, du coup, enfin, les vraies théories, ça reste des théories, mais certaines qui commencent à se vérifier, c'est là, ouais, il y a quand même pas mal de champ encore à pouvoir explorer des choses. Bon, en tout cas, je vois peut-être que ça...
Ouais, ça... Pas évident, hein, mais c'est très intéressant.
Non. Ouais,
non.
C'est bien. Moi, ça me fait des trous dans le cerveau. Je me souviens, quand j'étais petite, je comprenais rien à... Alors, déclenchement de l'hilarité générale. Je comprenais rien à Retour vers le futur.
Mais ouais.
J'y comprenais vraiment rien. Par contre, ça me fascinait, quoi. Parce que déjà, j'adorais la DeLorean. J'étais persuadée qu'on pourrait voyager dans le temps avec une DeLorean. Donc ça, j'y comprenais rien, donc j'avais déjà fait des graphiques et tout, j'avais fait des trucs comme ça, j'avais écrit en disant « putain, Marty McFly » et tout ça. Bref, j'ai pas mieux compris. Et alors, sur ces questions de films de science-fiction, je pense que j'ai pris un choc encore pire, et dont je suis toujours pas remise, je crois, c'est le film « La planète des singes ». Et pas celui de Tim Burton.
Oui, avec Charlton Heston.
Ouais.
Ouais.
Ah merde, c'est vrai, c'est lui.
Ah oui, oui. Anna Roth, ça, bon. Ouais.
Mais le film est absolument génial. C'est angoissant au possible. Enfin, c'est vraiment un film pas croyable, quoi. Et moi, je comprends rien à ces trucs. Je pense que ça touche un truc, ça m'angoisse, quoi.
Ah oui, il y a un truc hyper angoissant dans ces trucs. Et en même temps, on a envie d'aller un peu voir, parce que ça pousse un peu des limites aussi personnelles de conception, justement. Qui font que ça devient vite le bordel dans notre tête, quoi. Mais pour en venir à Retour vers le futur, justement, c'est ça. Enfin, c'est lié un peu à la comédie-aventure, mais au début, ils passent leur temps à colmater, en fait. Enfin, à un moment donné, ils vont tout le temps essayer de colmater, surtout dans le deuxième épisode, ce qu'ils ont pu produire en voyageant dans le temps. Et c'est vrai que moi, j'avais cette image-là aussi qui était assez angoissante, de voir Marty qui faisait de la guitare, du coup, dans le passé. Mais comme il avait rencontré sa mère avant son père, eh ben, sa mère ne tombait pas amoureuse de son père, mais plutôt de lui. Et à un moment donné, il est en train de disparaître parce que, justement, son père est en train de se faire prendre sa place et qu'il n'arrivait pas à sortir avec sa mère. Et j'étais là, ouais, putain, c'est vrai que... Enfin, c'est une comédie d'aventure assez familiale. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu regardes ça, tu te dis quand même, ah ouais, mais c'est vrai que finalement, ça pose un concept déjà. Enfin, même étant jeune, tu comprends ce qui se passe, quoi. Mm.
Voilà, il faut regarder Retour vers le futur et La planète des singes.
Ouais. Et Un jour sans fin, surtout.
Ah ouais, celui-là est vraiment excellent.
Ouais. Et dans le côté angoissant, justement, sur la théorie de tout ce qui doit arriver, arrivera, il n'y a pas que La planète des singes, il y a aussi les Terminators. Enfin, au début, ce n'était pas prévu, mais finalement, c'est tout ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est assez marrant parce qu'il y a, petit spoil, la personne qui voyage dans le temps pour contrer les robots et protéger la maman du chef de la résistance, c'est lui qui va devenir le père du chef de la résistance, en fait. Et voilà, le fait de voyager dans le temps, en fait, voilà.
Moi, j'ai un vague souvenir d'une série où je crois que c'était une fille qui faisait arrêter le temps, genre en tapant dans ses mains ou un truc comme ça.
La sorcière bien aimée, non?
C'était son nez. Mais c'est très vague dans mon esprit.
Il y a des épisodes de la série La Quatrième Dimension aussi, où ça joue sur ces questions d'arrêter le temps, de le redémarrer.
En fait, c'est ça. La Quatrième Dimension, c'est ce qui est considéré aussi comme étant potentiellement la ligne de temps dans les trois dimensions. Je disais longueur, largeur, profondeur, quatrième, le temps. Mmh. C'était Code Quantum, où il y avait le personnage qui voyageait dans le temps à travers le corps de personnage.
Oh,
il devait modifier justement les choses.
Ouais, carrément.
Ah, ouais, vu les séries.
Ouais, ça va, j'ai regardé.
Peut-être tu n'avais pas le choix, tu n'avais pas encore la distance critique qu'il fallait. Si aujourd'hui tu te retrouvais dans les années 80, tu regarderais peut-être pas.
Peut-être pas.
Mais alors, est-ce que tu dirais ça aujourd'hui?
Bien. Bon, bah, ça y est, on va parler un peu d'élections.
Ouais. En fait, ouais.
Oh, bah, en fait, ça risque d'être encore plus complexe pour les cerveaux, ça.
Bah, là, on va pas en parler beaucoup. On va laisser les autres parler. Je m'excuse par avance. Christine, je suis désolée, je ne sais pas dire ton nom de famille. Donc, on va écouter un documentaire sonore qui vient tout juste de sortir. C'est donc Christine Falchon.
Falchon.
Je sais pas, il y a une apostrophe, ouais. c'est du breton.
Falcon.
Falcon, Christine Falcon. Bon, bref. Il a réalisé un documentaire pour Arte Radio, sur les votes blancs et les votes nuls. Donc le documentaire vient tout juste de sortir, il est disponible sur Arte Radio, et ça s'appelle « La voix des nuls », et on l'écoute, ça dure 12 minutes, et c'est vachement bien.
Blancs ou nuls, ils ne sont pas tout blancs, mais ils sont bien nuls.
J'ai étudié le vote blanc et nul d'abord à la fin de mes études en Master 2, en découvrant tout simplement les archives de bulletins nuls des élections présidentielles et législatives de 2007 dans l'Oise, une élection à laquelle moi-même, quand j'avais 20 ans, j'avais voté blanc.
Ceci est un bulletin blanc et je tiens à faire savoir que les candidats qui se sont présentés ne correspondent pas à ce que j'attends d'un président de la République.
Et donc ça m'était resté quelques années en tête, ce sujet vote blanc, vote nul. Et c'est pourquoi je me suis épris de passion pour ce matériau de recherche. Donc je suis Jérémy Moalec, docteur en sociologie politique de l'université Paris-Saclay. J'ai réalisé une thèse sur le vote blanc et nul en mars 2018.
Un bulletin Emmanuel Macron, sur lequel est apposée la marque d'un baiser au rouge à lèvres.
Un bulletin Jean-Luc Mélenchon avec plein de petits cœurs dessinés au feutre rouge.
Une étiquette de Muscadet, Sèvres et Maine 2015. Accompagnée de la mention « Je ne fais pas que voter blanc, je le bois aussi ».
La distinction vote blanc, vote nul, aujourd'hui, n'a aucun sens. Rapidement, un vote blanc, selon la loi, est censé être soit une enveloppe vide, soit un bulletin blanc vierge, au même format et au même grammage qu'un bulletin d'un candidat officiel. Donc on voit bien que c'est quand même assez drôle, assez cocasse, puisque vous imaginez bien un électeur en train de mesurer sa feuille blanche pour être sûr que ce soit un papier blanc. Et puis, à la place du scrutateur, on les voit mal, en fait, peser ou même mesurer les feuilles blanches pour estimer si c'est plutôt un vote blanc ou un vote nul. Donc, concernant la feuille blanche, ça crée beaucoup d'ambiguïté, de confusion. Et du coup, selon le bureau de vote, on a des bulletins qui se trouvent être mis dans la catégorie vote blanc. Et puis, dans la rue d'à côté, le bureau de vote va dire « Ah non, non, c'est pas la bonne dimension, ça va devenir un vote nul ».
À défaut de bulletin blanc, voici mon blanc. Merci de le comptabiliser en tant que tel.
Un bulletin découpé en tout petits morceaux.
Un bulletin déchiré et froissé.
Un papier blanc découpé à la main, portant la mention manuscrite « Abstention ».
Honte à la classe politique française. Voleur, menteur, vendu, immoral, sans honneur, hypocrite et démagogique.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas utiliser l'enveloppe vide ? Eh bien écoutez, l'enveloppe vide, le problème c'est que ça peut mettre à mal le secret du vote. Et surtout pour certaines élections, puisque par exemple pour les européennes, les bulletins sont en format A4. Donc la personne qui choisit un candidat à une liste a une enveloppe très bombée. Alors que la personne qui souhaite voter blanc a du coup une enveloppe qui est plate, puisque vide.
Marre de voter.
Et donc quand vous faites la queue au bureau de vote, cela gêne certains électeurs qui ont la sensation que ça se voit.
Tous des pourris qui font leur pute à la télé.
Et donc ça pose souci. Et ces électeurs préfèrent du coup prendre un bulletin et le rayer. Ou alors écrire vote blanc dessus. Et quand on écrit vote blanc sur le bulletin, c'est un vote nul. Donc vous voyez bien l'absurdité des catégories juridiques et légales.
Fuck ! Le vote blanc doit être comptabilisé.
Reconnaissance du vote blanc, ça ne veut rien dire. C'est employé souvent par démagogie, par les politiques. Et on ne voit pas forcément les modalités concrètes derrière cette expression.
Ceci est un bulletin blanc. Je réalise mon devoir civique et exprime mon opinion que les deux candidats ne sont pas représentatifs de mon pays.
Ça peut aller d'une prise en compte dans les suffrages exprimés de ces votes blancs, donc au même titre que les bulletins d'un candidat, on compterait ces votes blancs-là. Ils auraient la même valeur qu'un bulletin pour X ou Y. Ça peut aller jusqu'à donner un pouvoir de sanction et donc dire qu'à partir d'un certain pourcentage, bah, l'élection ne peut pas être validée et qu'on refait une élection. Ça peut être aussi dire que le pourcentage, dans le cadre d'une élection parlementaire, le pourcentage de vote blanc se traduit par des sièges vides. Ça s'est déjà fait. Donc vous voyez, derrière reconnaissance du vote blanc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises.
Monde de merde.
Et donc ça me semble être un non-sens, pour pas dire plus, de l'émettre, cette proposition, sans cesse et de façon régulière.
La photo de Cyril Hanouna, vêtu d'un slip sur la tête, accompagné de la mention « Quitte à voter pour un clown, autant voter pour le plus drôle ».
Dessin au fusain. Un homme, cheveux courts et langue pendue, s'apprête à lécher une paire de fesses.
Une photo de machine à laver issue d'un catalogue publicitaire.
Un dessin de fleur de lys accompagné de la mention « Vive nos bons rois chrétiens ».
Emmanuel Macron marche, Marine Le Pen crève.
Quand on découvre ces bulletins, on est forcément tiraillé par deux types de sentiments. La jouissance de briser le secret du vote, parce qu'on a affaire à des bulletins qui ne sont pas les nôtres, à des opinions politiques qui sont parfois tabous dans la vie quotidienne, dans certains cercles familiaux, etc. Et là, on découvre des choses. Donc, il y a cette jouissance-là. Mais il y a surtout, très vite, une forme de malaise qui survient, parce qu'on est face à des bulletins où des électeurs vont exprimer leur détresse sociale, leur incompréhension politique, et d'ailleurs que ça soit de façon sérieuse ou humoristique, parce que bien qu'humoristique, des bulletins sont souvent la traduction d'une exclusion politique, sociale, et qui nous revient en plein visage quand on les découvre.
Voleurs, menteurs, profiteurs, arnaqueurs, voter pour ça nuit gravement à la santé de la démocratie.
Interdiction des licenciements pour protéger les travailleurs de la misère. Vive l'explosion sociale.
Vive les pauvres.
Dans les archives de bulletins nuls, on trouve vraiment alors de tout. Moi, j'ai eu tendance à essayer d'objectiver mes typologies avec d'abord la grande majorité des bulletins nuls concernent des bulletins officiels de candidats qui sont détournés par les lecteurs.
Un bulletin François Fillon, accompagné de la mention manuscrite, c'est comme le maire, tous des escrocs.
Plusieurs bulletins François Fillon, accompagnés de la mention « Rends-nous notre argent ».
Ni la finance, ni la milice. Vive Jean Lassalle.
Un bulletin Marine Le Pen, accompagné de la mention « Ma grosse teub ».
Jean-François Ranlard. Jean-François Ranlard. Rends l'argent, François.
Voilà, donc on a des choses humoristiques comme ça, mais on a aussi de vrais pamphlets qui sont présents parfois sur ces bulletins officiels, mais en plus particulièrement de second tour, où on va avoir des électeurs décider lors d'un second tour à ne pas voter à contre-cœur ou à contre-opinion.
Aucun de ces deux clowns.
Et à utiliser le bulletin de leur candidat favori, même s'il est éliminé, pour voter blanc et nul.
C'est une vision utopiste, mais je ne retrouve en rien les valeurs de la France dans ces élections. Liberté.
Ne changeons pas de maître.
Égalité.
Prenons-nous en main.
Fraternité.
Vive la France, vive l'Europe, et non à la guerre.
Vivement la chute de ce système et un retour à la démocratie réelle.
Et puis ensuite, on a aussi des bulletins que j'ai mis dans une catégorie divers.
Une étiquette de fromage, brie de mots
un préservatif, à Paris.
Un autocollant de soutien au président turc Erdogan en Moselle.
Un ticket de caisse provenant du Carrefour City de Roubaix d'un montant
une
de
21
euros.
Une page de test d'imprimante. Windows HP, DeskJet,
des
2540.
Feuilles de papier toilette, non usagées.
Un flyer pour le magasin Faire la Fête, situé zone de Cora.
Un bout d'andouille dans les Côtes d'Armor.
De la patinoire à Monuto, dans l'Yonne.
Œufs,
oignons,
ketchup,
pâte à pizza,
dentifrice,
couche taille 2,
bière x 24.
Ce qui peut réunir les personnes qui votent nul, c'est un refus.
Non, merci.
Le refus de renoncer à voter, le refus de choisir pour les candidats en présence, le refus du système de représentation démocratique tel qu'il existe aujourd'hui, le refus de l'exclusion sociale dont beaucoup d'électeurs qui votent blanc et nul sont concernés, eh bien, ça peut être aussi ce refus-là.
Lingua corsa, lingua ufficiale.
Langue corse, langue officielle.
Libérez Georges Ibrahim Abdallah !
Entre la peste et le choléra, que choisir ?
Donc j'ai envie de vous dire, ce qui les réunit, c'est le refus, mais vous voyez bien que c'est très divers.
Assez d'impôts, assez de tout. Tout ne doit pas se vendre ni s'acheter. Nous sommes des êtres humains, pas des pompes à fric.
C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a très peu d'études sur ce type de vote ou qu'on en parle très peu. c'est que c'est difficilement, entre guillemets, saisissable.
Anti-GPA.
À la fin, c'est toujours les francs-maçons qui gagnent.
Marie, je t'aime.
Il y a des électeurs qui vont demander, vont exprimer des revendications plus ou moins concrètes. Ceux qui vont faire des revendications contre le capitalisme, et puis il y a ceux qui vont demander que le maire refasse la route à côté de chez eux, ou que le maire fasse en sorte que les chiens du voisin n'aboient plus.
À part à la buvette, on voit pas trop le maire bosser. Démission.
Jean-Claude, ta braguette est ouverte. Désolé, je savais pas comment te le dire autrement.
Il y a aussi des demandes en mariage que j'ai pu avoir. Une personne qui demande, qui dit le prénom et « veux-tu m'épouser ?»
Bonne fête, maman.
Après, ce qui est certain, c'est que les bulletins nuls ne sont pas les bulletins fantaisistes qui sont toujours relayés par la presse à chaque élection. Les bulletins nuls sont davantage que cela. Mais cette façon de toujours présenter les bulletins nuls sous l'angle de l'anecdotique est aussi une manière de les disqualifier, de les délégitimer, et aussi une manière plus ou moins consciente, hein, c'est pas un grand complot, hein, mais une manière de passer sous silence des contestations qui sont considérées comme illégitimes.
Plusieurs bulletins osés, josés, accompagnés d'une invitation à se rendre sur son site internet.
Plusieurs bulletins Charles de Gaulle, mais aussi
Zinedine Zidane,
Karim Benzema,
Jeanne d'Arc,
Johnny Depp,
Céline Dion,
Henri Guénaud,
Michel Blanc,
Dark Vador,
Nicolas Sarkozy,
Bonaparte.
On les appelle vote nul, mais le Conseil constitutionnel, dans sa documentation officielle, nomme les bulletins nuls les bulletins pirates. C'est quand même assez drôle. Donc vous voyez bien qu'effectivement, on a une forme totale de déconsidération de ce qu'on appelle justement vote nul, alors que au 19e siècle, ce qui était valorisé, c'était les votes nuls, qui étaient parfois comptés dans la comptabilisation des scrutins et des suffrages, puisqu'en fait, ce qui était valorisé, c'était l'écrit.
Une carte d'électeur déchirée.
Un dépliant publicitaire pour le professeur Kunta, grand voyant, médium et cartomancien.
Amour, chance au jeu, santé,
problème de chômage,
impuissance,
retour de l'être aimé, tous vos problèmes, même les cas les plus désespérés. Résultat immédiat garanti 100%, paiement après résultat.
On avait quand même beaucoup, un fort pourcentage d'illettrisme dans la société française, et donc on valorisait ces bulletins qu'aujourd'hui on nomme nuls, parce que les lecteurs, même s'ils n'élisaient pas quelqu'un, qu'ils ne choisissaient pas quelqu'un, avaient mis son opinion politique en mots. Et donc, jusqu'en 1913, on a compté pour certains types d'élections des bulletins qu'aujourd'hui on considère comme nuls.
Deux bulletins découpés puis assemblés avec du scotch, formant le nom Marine Macron.
Dans le cadre de beaucoup de bulletins blancs ou nuls, on peut constater une forme de distance critique à la politique.
Un photomontage représentant Mickey en Père Noël. Légendé, au pays de Mickey, les bouffons sont présidents.
Une forme de désenchantement qui est aussi...
Une photo d'un petit chaton trop mignon.
Un réenchantement potentiel, puisqu'il n'y a pas que des critiques, il y a aussi des propositions.
Allez tous vous faire foutre.
On sent bien l'ambiguïté entre le désenchantement et le réenchantement souhaité.
Une seule solution.
Arte Radio.
La révolution.
.com.
Il faut toujours abuser de sa liberté. Paul Éluard.
Chouette.
Ouais. Donc c'est le documentaire donc réalisé par Christine qu'on peut retrouver sur Arte Radio. Et juste pour... c'est ce qu'ils expliquent hein, dedans... Donc c'est une discussion avec un sociologue qui s'appelle Jérémy Moilec, qui a fait sa thèse sur le sujet, donc c'est lui qu'on entend surtout. Et donc Christine est allée au Conseil constitutionnel. Moi j'ignorais que les bulletins nuls étaient conservés au Conseil constitutionnel. Ouais. Et donc il est allé dépouiller les bulletins nuls et, là-bas pour travailler sur le sujet. Et du coup voilà, c'était d'actualité.
Ouais, moi j'hallucine un peu de savoir que c'est conservé, c'est bien,
c'est chouette. Ouais. Alors, ils conservent aussi le ketchup
et le morceau d'andouille. il a publié pas mal de photos de... Bah, en fait, quand il était là-bas, il les a eues dans les mains, donc il en a pris pas mal en photo sur sa page Facebook et sur son compte Twitter, il les a publiées et c'est assez... C'est assez rigolo. Bon, le meilleur, c'est quand même la petite étiquette de Muscadet.
Ah oui.
Je ne fais pas que blanc, je ne fais pas que voter, je le bois aussi.
Ça m'étonne pas que ce soit celui-là qui te plaît.
Ouais, c'est celui que je préfère.
Moi, ça m'a fait penser à quand j'étais... Enfin, moi, je suis d'un bled où t'avais le droit de barrer les noms, en fait, au municipal. Donc, dans les petits bleds, moins de 1000 habitants, je crois, tu peux... quand c'est les municipales, en fait, donc les gens montent des listes, par exemple, à Tréflèze, en général, donc là, c'est le bled d'où je viens, il y avait... 2 ou 3 listes, et donc pour élire 15 conseillers municipaux, en gros. Et en fait, tu pouvais barrer des noms qui sont sur la liste et mettre plusieurs listes, même en barrant des noms. Le seul truc, pour que ce soit pas considéré nul, il fallait pas qu'il y ait plus de 15 noms. C'est tout, quoi.
Et tu pouvais choisir à l'intérieur des listes les gens.
Okay. C'est ça. Ça crée un truc aussi, parce que moi, je me rappelle d'être allée à un dépouillement des municipales, et c'était trop marrant, parce que, en fait, dans les petits bleds comme ça, où un peu tout le monde se connaît, et ben, quand tu vois le bulletin, tu sais à peu près qui c'est. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui reviennent. Alors, tu vois, il y a tout un groupe qui va virer que les paysans, les gros paysans. Il y a un autre qui va virer tous ceux qui sont de Kerema et qui sont considérés avoir tout le foncier, machin. Il y en a d'autres. Et du coup, il y a des mélanges de ouf, quoi. Parce que souvent, t'as une liste considérée à droite, une autre à gauche. Et te mettre les deux dedans en barrant des noms. Parce qu'en fait, le machin, c'est mon voisin, je l'aime bien. C'est vraiment... Et t'avais aussi, dans les nuls, justement, des messages. « Ouais, toi, avec ton chien, machin, le chien errant... » Et en fait, c'est assez ouf. T'avais vraiment... Et des trucs très... qui dénonçaient aussi le maire. « Il a fait ci, il a fait ça... »
Ouais, c'était pareil dans mon bled. C'était un petit bled aussi. Et c'était les mêmes comportements. Ça n'avait plus... T'avais plus du tout de sens politique, quoi. C'est comme tu dis, c'est. Enfin. En tout cas, ça votait vraiment pour des gens, quoi. Toi, non, t'es un con. Toi, ouais, d'accord. C'est vraiment chelou, quoi.
Ouais. Là, c'était marrant.
Folklore, les bureaux de vote, hein, dans ces bleds-là.
Ouais.
Ouais, du coup, tu votes pour des personnes et pas pour des idées.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ouais, ouais.
Ah, c'est vraiment ça, clairement. La plupart du temps, il y a quelques listes entières, mais c'est pas la majorité. Tu vois, des gens.
Cela dit, pour mon bled, t'avais pas le choix. Enfin, il y avait des idées, il y en avait pas beaucoup, si tu veux. Donc, t'étais un peu obligé de voter pour des gens, quoi.
Et ce que tu peux faire aussi quand c'est comme ça, c'est que tu peux ajouter des noms. Donc, des gens qui se sont pas présentés aux élections peuvent avoir des voix aussi.
Ouais.
Alors, des fois, c'est assez marrant, parce qu'il y a souvent quelques personnes comme ça qui ont pas mal de voix, en fait. Ils sont pas élus. Ils ont pas suffisamment pour être élus, mais c'est assez, assez étonnant aussi.
Voilà. Enfin, alors que nous avons une arrivée dans le studio.
On va... Bon, écoutez vite fait ce que dit des proches des élections. Alors lui, il parle des cantonales, hein, mais on s'en fout. C'est très court.
C'est étonnant, non ?
Pierre Desproges, vous êtes devenu un homme public. Alors, n'avez-vous
pas... Je ne suis pas candidat au cantonal.
Oui, alors vous n'êtes pas présenté au cantonal.
Non, je suis contre le droit de vote. De façon générale, j'ai une position qui est assez tranchée. Je ne comprends pas qu'on laisse voter les gens parce qu'ils se trompent tout le temps. Alors, mieux qu'ils aillent.
Ce week-end, là...
Oui. Vous savez, la démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures, dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. Quand on connaît le plus grand nombre, on n'a pas envie de le laisser voter. Et quant à la dictature d'un seul, que voudraient les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est pas très sain non plus. Donc le mieux, c'est le jour des cantonales, faites comme moi, aller à la pêche. Je voyais tout à l'heure ces vieillards là, qui vont bientôt mourir, et qui, au lieu d'aller tranquillement à la pêche, ils sont obligés d'aller serrer la main de gens qui sont même pas de leur milieu. Ça doit être très agréable pour eux.
Ne votons plus.
C'est pas une raison pour pas aller à la pêche.
Vous pêchez.
C'est tout ce que j'ai à dire sur les cantonales. Mais on peut parler de sexe, si vous voulez.
Non.
J'aime bien la fin. On peut parler de sexe si vous voulez. Non. Non, merci.
C'est pas une raison pour pas aller à la pêche.
Alors, on te laisse t'installer et on écoute Rancière vite fait, un peu plus sérieux avec.
Il va pas parler de pêche.
Non.
Ah merde. Vas-y.
Allez.
Il faut savoir que démocratie, c'est pas simplement le fait que tous les 5 ans, on va choisir entre les gens du PS et les gens de l'UMP soumis à une loi qui est la loi des marchés financiers, que de moins en moins, disons de moins en moins, finalement, on écoute la parole de ceux qu'on dit être les citoyens, malgré tout souverains, quoi. Bon, on a tous évidemment en tête la fameuse histoire du référendum, disons, du référendum européen et de la façon dont le traité a été repris et plus soumis parce que, à ce moment-là, Sarkozy l'a dit, il y a des choses trop sérieuses pour qu'on les remette aux simples citoyens. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Bon, on a vu également, je dirais, comme s'étaler de plus en plus comme une espèce de mépris, effectivement, des simples citoyens. Bon, si on voit ce qui se passe par rapport... toutes les questions des délocalisations, des emplois que l'on supprime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'aspect économique, mais l'aspect que de plus en plus, il y a des paroles qui sont considérées comme étant absolument sans intérêt, qu'on n'a même pas à les écouter. Donc je crois que, pour moi, si vous voulez, là où je suis, effectivement, le phénomène malgré tout premier, c'est la régression de la démocratie et pas du tout sa progression. Sont très très largement des institutions oligarchiques, quoi, effectivement, par rapport à quoi on pourrait redéfinir des institutions qui soient sinon plus démocratiques, du moins plus proches de la démocratie. C'est pour ça que j'ai relancé comme ça des idées qui ont l'air d'idées un peu folles, comme le fait que la démocratie originellement c'est le tirage au sort et c'est pas l'élection, par exemple, quoi. Que si après tout le monde est capable, le tirage au sort peut désigner aussi fiablement que le régime électoral. Ce qui veut dire aussi que la démocratie, ça veut dire que les gens, il n'y a pas de professionnels de la politique, qu'un mandat électif est un mandat court, est un mandat non renouvelable, non cumulable. Il y a toute une série de choses comme ça qui peuvent définir des institutions qui sont quand même plus démocratiques que celles qu'on connaît.
Bon, il va un petit peu vite, si vous voulez tout comprendre. Peut-être lisez La haine de la démocratie, Jacques Rancière. Pierre nous a rejoint. Hello. Bonjour.
Mon micro n'est pas allumé.
Si.
Je n'entends pas bien.
C'est qu'il n'est pas vraiment dirigé vers ta bouche. Il est un
comme
peu
ça,
bas.
Hein. Ouais,
voilà, là, ce sera mieux. Okay. Alors, tu voulais nous parler des élections?
Ouais, élections, mais alors j'ai cherché un peu ce matin. Qu'est-ce qu'il y avait à en dire et je ne sais pas trop. En vrai. Non, il y a un papier assez sympa de Dédé Schneiderman. Il fait un billet là, tous les matins. Sur Arrêt sur Image, qui est bien. Ou sinon, on peut aller lire, par exemple, c'est sur ce qu'en racontent les grands médias, quoi. On peut aller lire Jean Quatremer à Libération, toujours un. Lui, c'est vraiment un petit toutou, quoi. Donc, ouais. Au moins, c'est clair quand il dit. Donc, voilà, il fait un article, analyse les 6 leçons des européennes, QV 2019. Donc ça commence par la QV 2019 des élections européennes réserve son lot de surprises mais confirme aussi les grandes tendances anticipées. Façon de dire que les résultats n'ont rien à voir avec les sondages sur lesquels ils discutaient depuis des semaines. Mais que c'est pas grave, il va quand même faire une analyse. Donc, idée numéro 1, une participation en forte hausse. 8 points de plus qu'en 2014. C'est énorme. Si vous écoutez les Insoumis aujourd'hui, vous les entendrez parler que de ça.
Tu m'étonnes.
Ensuite, la fin du duopole conservateur-socialiste. Et donc duopole, c'est peut-être un mot que vous connaissiez pas, parce qu'il n'existe pas en fait. Mais c'est le nouveau mot, c'est là-dessus qu'il les reprenait Schneiderman. Là. Donc la fin du duopole conservateur-socialiste. Le but étant de raconter maintenant l'opposition entre les libéraux et les illibéraux, un truc qui avait été bien analysé dans le monde diplo. Enfin voilà, ça c'est ce qu'on nous raconte. Donc c'est en France, c'est Macron contre Le Pen. Troisième leçon, le centre groupe charnière, que Quatremer va tout de suite faire suivre par la quatrième leçon, la poussée populiste stoppée. Donc c'est toujours Macron ou Le Pen, quoi. Cinquième leçon, la percée des écologistes. C'est peut-être le seul truc à dire sur les résultats. Enfin, les écologistes ont fini troisième à 13%. Enfin, les écologistes Europe Écologie des Verts, ouais. L'écologie, l'écologie libérale, quoi, disons. Ouais. Si, encore une fois, si ça a un sens de mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre. Et ensuite, sixième leçon, je sais pas, un mercato européen imprévisible. On sait pas trop ce qu'il veut dire, mais en tout cas, on sait pas trop. Il finit par le jeu s'annonce à la fois très ouvert et très complexe. Voilà, c'était l'analyse de Jean Quatremer. L'important, c'est ce que tu retrouves dans tous les grands médias, c'est l'abstention. Il y a moins d'abstention. Et on a remplacé socialiste versus UMP contre, par Front National versus Macron. Voilà, voilà. Alors, les résultats, peut-être un peu précis, parce que je vous avais parlé de comment étaient racontées les listes, enfin les élections, dans les médias traditionnels. Et en fait, il n'y en avait que pour, donc, évidemment, Macron-Le Pen. Et puis après, 4 ou 5, quoi. On avait été sur un article de Libé où il y avait les autres listes du duel Macron-Le Pen. Donc les autres listes et les grands partis traditionnels français de l'establishment politique, UMP, enfin de Les Républicains, UDI, Centre, la France Insoumise et le PS Glucksmann. Il n'y avait pas les écolos hein, dans le papier de Libé.
Moins
même,
de 10 listes, il y en avait 34 en tout, c'est ça?
Ouais, il y en avait 34. Et bon, ce qui est sûr, c'est que les résultats, tu peux les lire exactement comme les résultats de la présidentielle ou des législatives, et pas que des dernières, hein, depuis 15-20 ans. Tu mets les chiffres d'audience, en gros, enfin les passages télé, les fois où on parle de ton parti, et voilà, et t'auras à peu près les résultats des élections. Plus on parle de toi, plus on te laisse la parole dans les grands médias, plus t'auras de voix. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a le Front National, la République En Marche, les Verts, donc Jadot, on l'a vu hein, dans les médias quand même, de Les Républicains, Bellamy s'appelle, tête de nœud, on sait pas trop, la France Insoumise de Manon Brie, le Parti Socialiste de Glucksmann. Et après, donc ça, c'est ceux qui ont des députés. Donc c'est les seuls dont on a parlé dans les médias. C'est les seuls dont on parle en présentant les résultats. Hein. Les autres, on n'en parle même pas. Après, ceux qui viennent après dans les résultats, c'est Dupont-Aignan, 3,5. Donc un peu comme la présidentielle, Dupont-Aignan il est quand même invité aussi dans les grands médias, hein, parce qu'en gros c'est quand même une soupape de sécurité en cas de Le Pen trop haute quoi. Benoît Hamon 3,5 quand même. Hein. Voilà, c'est aussi le parti d'IM25 là, pour ceux que ça intéresse au niveau européen. Les Européens, donc ça c'était l'UDI 250, pourtant eux ils avaient droit aux honneurs de libération. Le PCF a fait 250 aussi, pareil, vous trouverez ce score nulle part quoi. Enfin, le Parti Animaliste, 2%, c'est ouf quand même. Hein. Ça c'est un parti dont on a entendu parler nulle part, qui n'a pas de base, machin, en tout cas je vais dire institué et tout. Après, Urgence Écologie, 1,8. Ensemble pour le Frexit, l'UPR, le 1,17. Beaucoup moins que j'aurais pensé.
Ça, c'est
quand même.
C'est une bonne nouvelle, hein,
ouais. Eux, ils ne sont pas dans les médias, mais par contre, on les voit. ils sont dans certains médias, par exemple, qui se disent alternatifs. Les médias proches de la Russie aussi,
ouais,
etc.
Arte, machin, tout ça. Là.
Ouais. Donc, quand même que 1%, la loose. Mais encore derrière, Lutte Ouvrière, 0,78. Donc là, vraiment, on voit ces partis-là, c'est ceux qui passent pas à la télé, qui passent pas dans le Télégramme, qui passent pas sur Libération, dont on parle même pas quand on parle des autres listes du duel Macron-Le Pen. Tout ça, ça fait moins d'1% du coup, hein, au final. Donc c'est bien beau de faire des élections, mais bon. Les Patriotes de Philippot, 0,6. Hein, bon, voilà, sans trop de surprises. L'Alliance Jaune.
Francis Lalanne.
Notre poulain.
Francis.
054. Les oubliés de l'Europe, les. C'est pas les derniers, hein, le truc des artisans, là, 0,23. Le Parti Pirate a fait 0,14, assez décevant, je pense aussi. L'Union des démocrates musulmans français, 0,13. La liste pour l'espéranto, 0,08. Là, je pense que les chiffres sont pas forcément super précis, enfin, c'est quasi zéro, quoi. Parti fédéraliste européen, à voix égale, décroissance 2019. Allons enfants, le parti de la jeunesse. Le Parti des citoyens, le mouvement pour l'initiative, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il y avait Livosson, là, dans sa dépêche, qui avait parié que les derniers, ça serait neutre et actif. Mmh. Il nous avait fait rigoler. Mais c'est pas forcément les derniers. Apparemment, les derniers seraient les jeunes communistes. Le Parti révolutionnaire communiste. Parce qu'en gros, ben, les communistes, ils ont voté pour le Parti communiste, quoi. Voilà les résultats complets, disons. Donc moi, ce que je vois, c'est toujours si on parle pas, enfin, si t'es pas adoubé par les médias, t'auras pas de voix et les gens vont pas voter ça. Donc c'est une grosse farce, ces élections. J'ai été voir à Brest, tu sais, un peu en plus avec nos superbes machines électroniques complètement opaques. En tout cas, elles rendent des chiffres rapidement et tout, et très précis. Donc on a des résultats un peu différents dans le coin quand même, où ben après tu vois le fait de... Enfin, il y avait quand même un truc, c'était avant voter par grande région en France, pour les européennes, et maintenant on votait au niveau national. Donc les résultats quand t'habites à Brest, c'est les mêmes que quand t'habites à Orange, disons. Mais on a quand même les résultats par commune, et donc à Brest, donc c'est de La République En Marche, 10 000 votes, 23%. Les écolos, après, 18%, 7 300 votes. Le Rassemblement National, Front National, 15%, 14,8. 6 000 votes, hein, donc il y a 6 000 personnes qui ont mis un bulletin Front National dans le coin. Le Parti Socialiste, évidemment, hein, 9%. Devant La France Insoumise, à 7,3%. De Les Républicains, 6,3. Génération de Hamon, aussi dans le coin, 6,5, c'est leur score national. Le Parti Communiste dans le coin, 2,5, c'est leur score national aussi. Bon, et après, toute la suite, je ne vais pas vous la refaire non plus. Debout la France, Urgence Écologie, le Parti Animaliste, 1,50 aussi. L'UPR, Lutte Ouvrière, le Parti Pirate. Et en dernier, Évolution Citoyenne, 17 votes. Ils ont quand même à chaque fois 25 votes, des trucs comme ça, les derniers, des derniers, quoi. Je sais pas exactement qui vote pour eux, mais ils sont 15, quoi, littéralement.
Bah, eux-mêmes.
Ouais, c'est les gens du parti, j'imagine, s'il y a déjà de quoi animer quelque chose. Voilà. Y a un bel article qui du Monde Diplo de janvier 2008 qui tourne pas mal aujourd'hui sur les réseaux dits sociaux. qui est surtitré « La télévision forge-t-elle des individus ou des moutons ?» Une des conclusions de l'article, donc c'est de Dany Robert Dufour. Une des conclusions de l'article, c'est d'éteindre la télé. Vu comment les résultats sont corrélés au passage d'antenne, j'ai quand même tendance à dire que c'est peut-être pas trop con ce qu'il raconte. Il s'appelle « Vivre en troupeau en se pensant libre ». Je pense que je vais l'imprimer, le garder sur moi, pour tous les gens qui te disent « l'abstention, c'est pas bien » et tout. Donc en tout cas, résultat de ces grands débats sur l'abstention, pas l'abstention, et en tout cas, bah, pas sur le fond des propositions ou le fond politique. C'est il y a que les groupes capitalistes en gros qui sont représentés, qui ont des élus, des députés, machin. Tout ce qui n'est pas capitaliste, enfin néolibéral, hein, je dis pas juste capitaliste par principe, hein, néolibéral, le fascisme en marche, quoi, n'aura pas de députés, on n'en parle même pas, enfin voilà. Et ben, pendant ce temps-là, les insoumis, tous ceux qui ont perdu, machin, ils continuent à te parler d'abstention. Oui.
J'ai
éteignez votre télé déjà.
Pour faire suite à ça, il y a une petite infographie détournée par Yanis Yuluntas qui a été publiée aujourd'hui. Donc c'est l'infographie du Monde et en fait il va rayer et réécrire sa version à lui. Donc le Monde est rayé pour écrire le Monde capitaliste et je rapproche mon ordinateur. En gros, il dit, donc tous les titres, je vous lis ce qui était écrit par Le Monde, et puis ce que lui réécrit dessous. Donc, Le Monde a étiqueté les listes qui ont obtenu des sièges au Parlement européen selon leur tendance, de gauche radicale à extrême droite. Correction d'Yuluntas, Le Monde capitaliste a étiqueté les listes qui se sont partagées les places au pouvoir selon leur tendance, de l'extrême gauche du capital à l'extrême droite du capital. Résultat des élections européennes, titre Le Monde, modification par Yuluntas, résultat du conditionnement médiatique en Union européenne. Et puis il y a l'infographie du Monde, et donc c'est il reprend le nombre de sièges avec les titres du Monde. Donc gauche radicale 38 sièges, lui il modifie, il écrit extrême gauche du capital, anti-libéraux, souverainistes de gauche, mais pas clairement anticapitalistes, sociaux-démocrates, gauche du capital, écologistes et régionalistes, capitalisme vert. Centristes et libéraux, centre du capital. Conservateurs, droite du capital. Droite nationaliste et souverainiste, capitalisme à la papa. Extrême droite du capital. Autre, rayé, autre capital. Capitaliste. Et donc il fait un total. Total capitalisme, 100% des places au pouvoir. C'est à peu près ce que tu disais.
Ouais. Il y a un côté, ce que je disais aussi l'autre fois, c'est ces élections-là, elles sont vues par ces partis-là que comme des sources de fric. En fait, ils s'en foutent complètement. À part, des fois, ça arrive qu'il y ait une députée qui prenne son rôle au sérieux, qui s'implique à Bruxelles, machin, voilà. Ou à Strasbourg. Mais c'est assez rare, quoi. Hein. Quand même, ils y vont parce que derrière un député européen, t'as de quoi payer 5 ou 6 personnes, 5 ou 6 permanents pour ton groupe, quoi. Pour ton parti politique. Et donc, vous serez ravis d'apprendre que le premier parti se revendiquant eurosceptique est de nouveau le parti qui a le plus d'eurodéputés et qui va s'en foutre le plus plein les fouilles. On remercie tous les gens qui ont voté pour eux, d'ailleurs, hein, parce que comme ça, ils vont pouvoir dépenser l'argent public de manière illégale, alors qu'ils ont déjà été condamnés.
Ouais, pour en fictif en plus, ouais.
Dans le cadre du Parlement européen.
Ah, ouais, voilà. Ça, ouais. Ah, ouais.
Ensuite, on va payer 8 euros députés et... Excusez-moi. 8 euros députés de Les Républicains, je sais même, genre le Bellamy, la tête de Pine, on va le payer, 20 000 euros par mois. La République En Marche va avoir quand même une belle manne, hein, même s'ils ont déjà plein de députés normaux, puis qu'ils ont aussi le président et qu'ils sont ultra corrompus, donc ils ont déjà plein de fric. Mais quand même 23 fois 20 000 euros. Europe Écologie Les Verts, la vitrine verte ouais, du capital, 13 euros députés. Donc eux, ils doivent être contents, par contre, niveau pognon, quand même. Et l'EPS, hein, qui se refuse toujours à disparaître, 6. Et la France Insoumise, c'est 6 aussi. Donc 6 fois 20 000 euros. Voilà. Donc, si vous considérez que là-dedans, il y a quelqu'un qui est susceptible d'apporter un changement politique au niveau européen, ben, c'est bien. Et moi, j'en vois pas. Et donc, je suis toujours autant conforté dans le fait de ne pas avoir voté, quoi.
Ouais.
Moi, je suis pas sûr que c'est qu'une histoire de thunes, quand même. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, le rôle aussi de l'extrême droite... à l'échelle européenne, il est de bloquer aussi des condamnations de la France sur des sujets, par exemple les droits des minorités, et que, et ben en fait, ça leur permet d'accompagner les lobbies réac à l'échelle européenne et de bloquer les condamnations de la France sur plein de sujets en fait. Et que ouais, pour moi, il y a cette histoire de thunes évidemment, mais que c'est un rôle important qu'ils ont à avoir des sièges. À l'échelle européenne, quoi.
Ouais, je connaissais moins ça. Peut-être si t'as.
Et ben, par exemple. Fois, si ouais, mais par exemple, la France. Est... On a parlé. Enfin, des fois, on parle des personnes intersexes à Radio Piquet, mais en fait, la France a été condamnée plusieurs fois sur les mutilations des personnes intersexes par la Cour européenne. Et en fait, être présent à l'échelle européenne pour tous ces réacs, en fait, ça permet de bloquer les condamnations, quoi.
D'avoir un poids. En tout cas, manœuvrer pour les mettre en place, les politiques qui vont avec.
Ouais.
De réaction.
Et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais que c'est vraiment, à l'échelle européenne, ces condamnations, elles sont quand même importantes. Pareil, la France a été condamnée sur l'abus du fichage et sur le refus d'ADN, enfin les condamnations sur le refus d'ADN. Typiquement, avoir des sièges au Parlement européen, ça permet de bloquer ces...
Ouais, après, je sais pas, enfin... en 2019, il y a aussi eu, tu vois, la France a été condamnée par la haute commissaire de l'ONU aux droits humains, aux droits de l'homme, ça s'appelait. Et tu sais, c'était Apathy qui disait une sombre sous-secrétaire, blablabla. Enfin, en gros, ces condamnations-là, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elles aient. Là, on est condamné à l'étranger. Plein de bonnes raisons, quoi, comme celle que tu viens de dire, là. Et on s'affranchit complètement du droit international, à petit. Comme,
je dis pas que le fait d'être condamné, ça a des répercussions, mais déjà, ça permet peut-être de faire... Ça fait parler de ces condamnations.
La situation,
Après, effectivement, dans la réalité, ça n'a pas un grand
impact, non. Il semblerait. Au-delà du fait que c'est en gros les candidats dont on parle dans les médias qui sont élus, il y a aussi le fait qu'il y avait donc 34 listes, c'est ça, et qu'il y avait, vous avez vu, donc toutes les villes ont dû sortir je sais pas combien de panneaux en plus devant les écoles, enfin devant tous les lieux de vote, parce que en fait. C'était du jamais vu, et que en fait il y avait aucune affiche qui était mise, donc ils ont sorti des panneaux pour rien, parce qu'en fait les gens sont pas en capacité, enfin il n'y a pas derrière des militants partout pour coller des affiches. Et il y a aussi un problème de thunes, c'est donc pour parce qu'en fait donc à Brest c'est un truc électronique là, donc tu avais effectivement les 34 alors je sais pas si à quoi ça ressemblait, du coup, si c'était tout petit, les 34 boutons, enfin bref. Mais il y a plein de bleds où justement, ça marche pas comme ça, c'est avec les tracts que tu mets. Et en fait, si tu voulais voter pour telle liste, il fallait les imprimer toi-même. parce qu'en fait, tu les as pas. Et donc, parce que les communes, elles reçoivent par la préfecture. Et donc c'est seulement les partis qui ont les moyens d'imprimer telle quantité de tracts qui sont dispo. Donc il y avait à Tréflez toujours, il y avait à peu près 15 listes qui étaient à disposition des gens pour voter. Les 15 autres, elles n'étaient pas là. Il fallait imprimer de chez toi si tu avais envie de... voter pour ces candidats.
Ouais, je pense à Brest avec les machines électroniques, là, ça doit quand même doit faire quelques votes qu'ils n'auraient pas fait sinon, quoi. Parce que tu fais, parti animaliste, ça a l'air cool.
Tu vas pas l'imprimer, enfin, tu penses pas à imprimer les trucs avant.
T'avais peut-être jamais entendu parler de ça avant. Même si je pense quand même que notre explication est plus juste que c'est les gens du parti eux-mêmes qui votent et qui sont 15. Voilà, je sais pas, c'est un peu triste, quoi. Grosso modo, les gens, ils votent ce qu'on leur dit de voter à la télé. Et...
Puis ça fait toujours se rendre compte, moi, je trouve, c'est le lendemain d'élection, c'est la quantité de réac qu'il y a dans ce pays, quoi.
Ouais, c'est... Ça fait mal à chaque fois,
quand même. En France, mais ailleurs aussi.
À l'échelle européenne, il y a d'autres enseignements, sans doute, à tirer de ces élections, mais... On n'y connaît rien, donc on va rien vous dire.
Quatrième sur l'info.
Ouais.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter « Casse-toi, tu pues » et « Marche Macron ».
Oh yeah. Qui chante ça
Je crois que c'est une personne qui avait écrit ça avant les élections présidentielles.
J'ai toujours pas écrit ça sur Mélenchon, d'ailleurs, il serait temps... Ouais.
C'est peut-être le but de la diffusion de ce message maintenant.
Je me disais qu'il serait peut-être mort maintenant, mais...
Ça vient.
Ah bon, là, avec 5 euros de députés, ou 6, je peux te dire, on n'est pas prêt de les entendre s'éteindre. Hein.
Ok. Eh ben, musique.
On revient pour la dernière partie.
Quand le banquier cool beau gosse est sorti du gouvernement, qu'il avait squatté comme une loque pour se faire un blaze. J'ai dit à Bob qui était au flip, regarde le mariole qu'on nous vend, vise la dégaine, quelle rigolade. Costume et mocassin, le guide du connard dans la poche, Milton Friedman à mort, mépris et loi du marché, tu vas voir qu'à tous les coups, il va faire présidentiable, 5% pour se rembourser ses frais de campagne. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les ondes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu fumes, et marche Macron. Grosse campagne de conne maquillée comme un carré d'as a débarqué dans les médias un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flic, prenez de la tronche des élitos, vise des louanges et les bobards. Cohorte de chiens de garde homologués chez SPA, déonto zéro et propagande à Kikloa. Qu'est-ce qu'ils viennent nous frimer la tête? Non mais il se croit au palace, peut pas saquer le malhonnête ni le dégueulasse. Alors j'en ai choisi un de chaque, et je l'ai chopé par le colbac. Et je leur dis, toi tu me fous les glandes, tu t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu fumes, et marche Macron. Il est retourneur de veste, du vent de ce qu'on ne peut voir, sont mis joués par tous leurs gestes dans la campagne. J'ai dit à Bob qu'avait fait-il, arrête leur mettre tout le pouvoir, je veux pas d'histoire, finir au bagne. Derrière leur pognon, je vois pas leur tronche et ça m'énerve. Si ça se trouve, ils me regardent, faut qu'ils arrêtent, sinon je les crève. Non mais qu'est-ce que ces mecs qui doivent manger en bavoir, donc qu'à retourner chez les Grecs, se faire boire. Avant qu'ils aient bu leur viandox, j'ai débranché mon jukebox. Je leur ai dit, vous me foutez les glandes, j'avais rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu fumes, et marche Macron. Me voilà responsable, j'oublierai d'avoir les pétoches. Me voilà même un peu coupable pour une nouvelle ops. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus d'options en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sur le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air bislard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, je dirai aux fachos, vous me foutez les glandes, j'avais rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi du cul, et marche Marion. Je leur dirai, vous me foutez les glandes, j'avais rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu fumes, et marche Macron. Casse-toi tu fumes, et marche Macron. Casse-toi tu fumes, et marche Marion. Casse-toi tu fumes, et marche Macron.
Sur un film. casse la ville. Des karatékas, des traqués qu'on manipule. Lâchez la gâchette. Elle se mambule, toi qui danses sur les toits. Qu'est-ce que tu vois sur les parois de ta bulle? Un enfant rêveur qui a pas peur du ridicule. Coupez-lui la tête. Parano, bloquer les manettes. Résultat, les rats se dévorent entre eux. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. La NASA s'inquiète auprès du bon Dieu. Où est la navette? S'attaque à ta voix. Braque les chocs, les chocs, les hauts-cols. Et vite par la bande, tac pour tac. Chacun dans le brouillard. Chacun pour soi, oula. D'étoiles, des milliards de particules qui déambulent dans l'infini cinéma, lui renvoie l'écho sur l'écran du terminal. Sauver sa planète.